C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Vous allez entendre les 5 reportages en lice pour le prix des médias francophones publics qui sera décerné ce soir. Le premier reportage que vous écouterez est celui de Nicole Debar et Jean-Marc Vierset de la radio-télévision belge francophone. Ils nous feront découvrir le monde des forains, un métier qui se transmet de génération en génération avec ses rites et ses codes.
Tu veux faire quoi comme métier tout à l'heure ?
Je veux faire forain, comme tout le monde.
Toute la famille.
Je veux avoir une friture.
Le deuxième reportage en compétition est signé Benjamin Illy de Radio France. Il a accompagné les centaines de Vénézuéliens qui fuient chaque jour leur pays pour échapper à la pauvreté, aux pénuries et aux violences.
Beaucoup de malnutrition, pas assez de repas, pas assez d'aliments. Les gens sont très maigres. Ils ne mangent pas.
Troisième reportage en compétition, Francesca Argiroffo et Pierre Crevoisier de la radio-télévision suisse nous dressent le portrait très touchant de Romain, 9 ans, atteint de myopathie et qui, envers et contre tout, continue d'aller à l'école.
Moi, ma maladie, elle me passe un peu à côté parce que je peux faire plein de choses comme les autres.
Quatrième reportage en lice pour le prix des médias francophones publics, celui de Marie-France Abastado de Radio-Canada. Elle est allée au sud du Sénégal à la rencontre des femmes qui luttent contre l'excision, une tâche difficile, tant cette pratique est ancrée dans les traditions.
Une chose qui est tellement ancrée, bien avant même l'islam, une chose culturelle. Ils vont te dire oui, on va abandonner, mais au fait, il n'y a pas d'abandon.
Cinquième et dernier reportage en compétition, Éric Desalves de Radio France Internationale s'est intéressé aux chaînes dites familiales sur YouTube. Quand des parents se filment et filment leurs enfants toute la journée, même dans les moments les plus intimes, comme la découverte d'un test de grossesse positif.
All right, I just took it.
Ok, je viens de faire le test et... Oh, je suis tellement contente! Je crois que c'est positif! Le signe plus veut dire enceinte.
Le nom du gagnant sera dévoilé dans le journal de 19h ce soir sur France Inter.
Interception, le magazine de la rédaction.
Le premier reportage nous emmène donc à Liège, à la découverte du monde des forains. Ils sont tamiliers en Belgique et c'est une profession qui se transmet de père en fils. Nicole Debar et Jean-Marc Vierset de la radio-télévision belge francophone ont suivi Thomas Delforge. Il tient un manège avec son épouse à la foire de Liège.
Approchez-vous, messieurs, dames. Nous attendons le tout prochain gagnant de la journée. Le Play Games, une attraction bien connue pour sa belle marchandise. Nous attendions les tout prochains clients, les tout prochains gagnants.
Elle sait tenir le Luna Park toute seule, hein. Elle sait gérer les clients sans problème. Parfois, je me mets à côté d'elle dans la caisse ou je me mets dans un coin de la salle et je la laisse un peu gérer. Et je la tiens à l'œil, elle gère sans problème. Lui est encore un peu trop petit, mais dans un an ou deux, ça va aller.
Des peluches de collection, tous les peluches de Disney à gagner par ici. Venez approcher, messieurs, dames, on n'hésite pas, on vient jouer chez Play Games.
Alors, Thomas Delforge, vous êtes ici forain. Toute l'année, vous êtes dans la caravane.
Tout à fait.
Alors, c'était un choix de vie?
Oui, tout à fait. Hein. On pourrait très bien avoir un appartement, voir une maison, mais ça ne convient pas du tout à notre profession. Nous, on bouge de ville en ville. En moyenne, je bouge 9 à 10 fois par an de ville en ville. Je fais souvent des foires d'un mois, un mois et demi. Et donc, vous verrez qu'une maison, c'est tous les soirs après la fermeture, à minuit, 1h, 2h du matin, quand on a fini. S'il faut rentrer, imaginez à Bruxelles, et puis revenir ensuite le lendemain matin sur Liège, ça serait carrément infernal, quoi.
Mais donc, c'est un choix de vie qui vous convient complètement, vous avez l'habitude?
Oui. Tout à fait, oui. Moi, j'ai grandi en caravane. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, nous, on n'a pas de maison chez nous. On est toujours en caravane 12 mois par an. Et donc, voilà.
Et comment ça se passe? On se marie? On achète une caravane ensemble?
Ça dépend. On va dire que le scénario idéal, c'est le jeune forain apporte l'attraction et la jeune fille qui est également foraine apporte la caravane. Enfin, c'est surtout les parents qui apportent, parce que les jeunes n'ont absolument rien.
Alors bonjour, je m'appelle Fenoshi Barbara et bienvenue chez moi. Entrez.
Je prépare
du chou rouge. J'attends que mon mari revienne avec mes enfants. Ils sont à une école spécialisée pour enfants de forains et de bateliers. Tous les enfants qui sont là, les parents n'habitent pas forcément Bruxelles, mais c'est là qu'on a l'habitude de les mettre et qu'ils sont tous ensemble. On va les apporter le lundi, on peut les apporter à 9h. Le mercredi à midi, on va les chercher. Le jeudi, on les ramène. Et le vendredi à midi, on va les rechercher. Donc, il n'y a que le mardi qu'on ne les voit pas.
Vous vous réjouissez, justement, de les voir?
Ah, bien sûr, hein. Après 2 jours, ils manquent, hein.
Vous êtes foraine?
Oui. Quand je me suis mariée avec mon mari, on a repris le stand de mes beaux-parents, le Luna Park. Mon mari avait voyagé avec ça quand il était chez ses parents. Et moi, chez mes parents, on avait un peu de tout. On a fait les pêches au canard, un carrousel. Le carrousel qui est juste là sur le coin, ça c'est mon père. Un buggy avec des petites autos, un petit circuit pour enfants. On a eu un peu de tout. Des jeux pour adultes, voilà. Le seul truc qu'on n'a pas encore vraiment fait, c'est la nourriture.
Alors, vous vivez ici dans la caravane, une grande, spacieuse, bien arrangée. C'est une maison, en fait, ici.
Oui, hein, pour nous, c'est une maison. Mais il y en a des plus grandes que moi. Il y en a des beaucoup plus grandes, beaucoup plus belles aussi. Hein. Enfin, la mienne, elle est belle, hein, je l'aime bien, mais il y en a des plus belles aussi. Hein. Et il y en a des plus petites, naturellement. Non, ouais, elles sont bien, quoi. On a tout le confort qu'il nous faut. On manque de rien, on va dire. Ah, ils sont là.
Vous voulez vous asseoir?
On est dedans toute l'année aussi.
Maman, tu veux de l'eau? Qui veut de la solo?
Moi.
Ouais. Moi.
Tom, toi, tu veux travailler à la poire plus tard?
Ouais.
Et tu veux faire quoi comme métier plus tard?
XXL.
Un XXL?
Ouais.
Un XXL, c'est un gros manège à sensation. On a tout le grand balançoire qui est là-bas, qui est très très drôle. À notre oncle.
Parce que ça attire beaucoup de filles. Et ça gagne beaucoup de filles.
Et toi?
Moi,
Elle va avoir une librairie.
Docteur. Lilia va faire docteur.
Non. Bras. Je vais faire bras, comme tout le monde. Et
toute la famille.
Je vais avoir une friture. Et aussi des petits bateaux. Comme là-bas. Et après, je m'achète un mieux métier.
Moi, je fais toujours des dessins à l'école.
Ah ouais, regarde ce qu'il a fait comme dessin.
Ouais, regarde, c'est très bien, moi.
Mmh. Oh ouais, voilà. Le dessin des forains.
Explique une fois, c'est quoi, ça, Tom?
Ça, c'est une petite caravane, comme nous ici, avec des escaliers, qui fait tout la plaine. Qui voyage tout le temps.
Et on marque quoi en dessous, comme phrase? Tu te souviens plus?
Non.
Expliquez, le monde entier est notre terrain.
Ok, le monde entier est entre tes mains.
Ouais. Un maximum du voilà. Un maximum du voilà.
Ça va, je suis pas le dernier ouvert, on a encore d'autres qui... Mon cousin, là, par exemple, c'est ma cousine. Là, il était également à Bruxelles, à Etterbeek, parti chercher les enfants, j'ai vu. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il n'est pas ouvert non plus. Il a eu du retard. Et là, mon beau-père. Là, le grand-père, qui vient ouvrir son manège, qu'elle a au coin. Il a un manège enfantin. C'est une pêche au canard par là. Donc, voilà. Ici, on est dans un Luna Park. Donc, c'est un genre de salle de jeu. Qui n'est pas un casino, on ne joue pas pour de l'argent, on joue pour des peluches ici, pour des cadeaux. Donc ici on a deux activités principales, c'est les machines à pince, machines traditionnelles, parce qu'il faut pincer des peluches pour les gagner, attraper des peluches à l'aide d'un grappin on va dire. Et deuxième activité c'est les jeux, nous on appelle ça les jeux achetons, c'est des cascades à pièces en fait. On insère les pièces par le haut afin de faire tomber un maximum d'objets qui s'échangent à la caisse contre des points afin de choisir des gros lots. C'est un type d'attraction qui fonctionne vraiment avec de la clientèle. Donc les gens viennent chez nous jour après jour, semaine après semaine, c'est les mêmes personnes, on a des clients de plus de 20 ans. C'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, qui sont majoritairement fidèles, je vais dire. Et voilà, le but, c'est que les gens cumulent leurs points pour ensuite prendre des beaux cadeaux. On donne des cadeaux à 500 euros, des cadeaux à 1000 euros, des iPhones, etc. Des gens qui cumulent vraiment année après année, quoi. C'est un manège qui fonctionne fort sur la clientèle, c'est pourquoi on est vraiment obligé d'être toujours nous-mêmes dedans, moi, mon épouse, afin qu'on soit reconnus et qu'on sache discuter avec les clients.
Et c'était à vos parents,
oui,
ceci?
Oui, c'était à mes parents. Et avant ça, c'était à mon parrain qui a le manège à côté. Encore après.
Un bon forain, c'est quoi pour vous?
Un bon forain, Un bon forain, déjà, c'est quelqu'un qui a le sens de la famille, parce que le premier mot à la fois, c'est la famille. Pas seulement la famille proche, mais je veux dire même les amis, les, vous voyez, s'il y a quoi que ce soit, il faut aller aider chez le voisin, il faut s'aider. Quand on a des problèmes de remorque, de camion dans les montages et montages, etc., on y va, on y met la main. Il peut y avoir un incendie ici au milieu de la foire, l'incendie sera éteint avant que les pompiers arrivent. Hein. Nous, on est 200 forains ici, habitués à ça. Il peut y avoir une bagarre, il peut y avoir n'importe quoi. On est toujours solidaires. Donc déjà, le mot famille et le mot communauté, je vais dire, c'est le principal, je pense, pour être un bon forain. Et ensuite, quelque chose qu'il faut vraiment essayer de maintenir, mais qui se perd de plus en plus, c'est le sens du spectacle. Nous, on est des amuseurs. On est, à l'époque, on appelait ça des banquistes, des saltimbanques. Le but de la fête foraine, c'est, voilà, c'est le micro, c'est la lumière, c'est les ballons, c'est les bulles. On est des amuseurs publics. Voilà, nous, ça doit vraiment rester quand même le sens du spectacle, le sens du show, comme les cirques, comme les spectacles, comme le théâtre.
Les forains, c'était un reportage diffusé le 6 janvier dernier sur la radio-télévision belge francophone. Nicole Debar, c'est vous qui avez réalisé ce reportage avec Jean-Marie Vierset. Bonjour.
Bonjour Géraldine.
Nicole, en France, le milieu des forains est agité en ce moment par différents mouvements de contestation. Les forains protestent notamment contre les appels d'offres obligatoires avant l'installation de toute fête foraine. En entendant ce reportage que vous avez réalisé en Belgique, on a l'impression que chez vous, le milieu est plus paisible et transmet son savoir-faire de père en fils de manière apaisée.
Ben c'est tout à fait ça. Ils sont plus calmes, bien sûr. Ils sont quand même plus de 4000 forains qui vont du petit artisan qui propose une pêche au canard jusqu'aux forains plus importants qui ont un grand stand d'auto-tamponneuses ou de trains fantômes. C'est vrai qu'ils sont, c'est vraiment une communauté très, très à part. Et c'est ça qui m'intriguait un petit peu lorsqu'on a commencé à faire ce reportage. On se disait, mais qui sont ces travailleurs itinérants qui vivent dans une caravane, qui n'ont pas de maison et qui vont de ville en ville toute l'année? C'est pratiquement maintenant 10 mois sur 12, ils bougent de ville en ville en Belgique. Et comment se passe justement l'évolution de ce métier? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que au départ, les forains, ben, on les connaissait comme des montreurs d'animaux un peu particuliers ou d'êtres qui étaient des frères siamois. Et aujourd'hui, ce sont vraiment, ils essayent en tout cas d'être des amuseurs publics et de proposer des attractions diverses.
Merci Nicole Debar de la radio-télévision belge francophone. Merci à vous. On part de l'autre côté de l'Atlantique, au Venezuela, où des centaines d'habitants fuient le pays chaque jour pour échapper aux pénuries, à la pauvreté et aux violences. Le Venezuela s'est enfoncé dans la crise politique et économique. L'inflation atteint le pourcentage hallucinant d'1 350 000%. Le président Nicolas Maduro dit que l'exode n'existe pas, que c'est une invention de l'étranger. Mais ce sont bien 3 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays depuis 2015, dont 1 million ont trouvé refuge dans la Colombie voisine. Ils empruntent pour cela une route de montagne dangereuse qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude dans la cordillère orientale des Andes. Benjamin Illy de Radio France les a suivis, son reportage.
À donde vas?
À Bucaramanga.
Bucaramanga, y después?
Hacia Perú.
Le Pérou, voilà l'objectif. Cette route empruntée par les Vénézuéliens, certains ont la chance de monter dans un camion, mais la plupart font le chemin à pied. Ah, 195 km. De Cúcuta, la ville frontière, à Bucaramanga, la ville étape de l'exode. La route est dangereuse, sinueuse, parfois plongée dans le brouillard. Une route de montagne à travers la cordillère orientale. Sur les bas-côtés, étroits, ils sont là, frôlés par les camions.
De Venezuela, en Colombia.
Ils marchent par centaines certains jours, jeunes, moins jeunes, parents, enfants. Ils traînent des valises, sacs sur la tête ou sur le dos.
Voilà.
Cansado, fatigué.
Poco, mucho.
Ce monsieur est essoufflé, épuisé.
Caminando mucho.
Sin zapato.
Pas de chaussures. Il n'a pas de chaussures, ce monsieur. Il marche pieds nus. Venezolano?
Si. Dani.
Dani, ¿cuántos años tienes?
19.
19 ans. 3 jours de marche et la nuit, les températures deviennent négatives. C'est dur, c'est très dur. Le froid surtout, dit Dani. On tombe malade. Il faut qu'on marche, qu'on passe le plateau, sinon on peut mourir ici. Marcher pour ne pas mourir. On doit marcher pour vivre, car ici il fait trop froid. C'est de la grêle. Les migrants s'en seraient bien passés.
Hola, ¿cómo está?
¿Tu hija?
Sí.
¿C'est votre fille? Dos o tres?
Tres.
Elle a trois ans.
Sí.
Claro, es muy difícil.
Julie, une jeune maman de 24 ans, elle s'inquiète pour sa fille. C'est très difficile pour elle.
El frío es más fuerte, pues.
Il fait trop froid pour elle. On a besoin de vêtements chauds.
En el camino,
et en route, on a eu des problèmes. On nous a volé notre argent, nos téléphones portables. On nous a laissé sans rien.
Dejaron sin nada.
Vous ne savez pas où vous allez dormir?
Esta noche, no.
Hola.
Muy difícil.
Poquito.
Wow. C'est très difficile, elle dit un petit peu, elle ironise.
La situation del país.
L'état de notre pays.
Fuerte.
C'est dur, elle a la voix brisée.
Personas en miseria.
Les gens vivent dans la misère, explique Wendy, 29 ans.
Mucha nutrición.
Beaucoup de malnutrition, pas assez de repas, pas assez d'aliments. Les gens sont très maigres.
Muy flaquito.
Ils ne mangent pas.
Por no comer.
Nicolas Maduro dit que l'exode n'existe pas. Que c'est une invention qui vient de l'étranger.
Ellos no son los que están acá.
C'est nous qui sommes ici, c'est nous qui devons parler, dire quelle est la réalité. Nous quittons le pays alors que c'est nous qui aimons vraiment notre patrie.
Let's go!
Et ils repartent. Adios, ciao!
Ciao, ciao, gracias, agradecido.
La route de l'exode des Vénézuéliens, c'était un reportage de Benjamin Illy, diffusé sur France Info le 6 septembre. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
1 million de Vénézuéliens ont trouvé refuge en Colombie. Comment la Colombie absorbe-t-elle un tel flux de réfugiés?
Alors la Colombie absorbe ce flux de réfugiés depuis longtemps, car l'exode a démarré il y a de nombreuses années. Au départ, c'était une migration préparée, les classes les plus aisées, les plus hautes sphères de la société qui ont migré vers la Colombie, le pays voisin, et donc une migration préparée, donc moins difficile. Aujourd'hui, ce sont les plus pauvres, les plus fragiles qui fuient le Venezuela, et actuellement, ce sont des gens qui n'ont pas de papier, qui travaillent comme ils peuvent, des petits boulots. J'ai croisé des psychologues qui devenaient vendeurs à la sauvette dans les rues de Cucuta, par exemple, la ville frontière, à quelques kilomètres du Venezuela.
Est-ce qu'ils ont un espoir de retour au Venezuela ?
Pour l'instant, ils ont surtout l'espoir de s'installer, d'avoir une vie meilleure et d'essayer de panser leur plaie et de remplir leur ventre, car ils nous l'ont tous dit, nous mourons de faim aujourd'hui au Venezuela. J'ai posé la question frontalement à peu près tous les Vénézuéliens que j'ai rencontrés tout au long de cette route, et la réponse, elle est catégorique, systématique. Nous avons faim, il n'y a pas de nourriture en ce moment dans notre pays.
Merci Benjamin Illy de France Info. Merci à vous. C'est un portrait très sensible et touchant que nous vous proposons maintenant. Celui de Romain, 9 ans, atteint de myopathie, qui veut aller à l'école coûte que coûte pour apprendre et se sentir comme les autres. Mais en Suisse, l'intégration des enfants handicapés dans des classes ordinaires se fait au compte-gouttes. Romain dispose pour l'instant d'un auxiliaire de vie scolaire, mais jusqu'à quand ? Pierre Crevoisier et Francesca Argirofo ont suivi le petit garçon chez lui et à l'école, à Marsens, dans le canton de Fribourg.
Non !
Un matin de décembre, des enfants à la course, dans la cour de l'école voisine. Il manque un enfant à la classe.
Ben, je m'appelle Romain, j'ai 9 ans. J'ai une maladie neuromusculaire. Ça veut dire que mes muscles fonctionnent pas très bien, que du coup je peux pas marcher.
Il est comme nous, mais pas comme nous, parce que il est en chaise roulante, puis ça devrait être difficile pour Romain de regarder des gens courir et tout, puis lui il peut pas.
C'est difficile pour lui d'écrire, ça lui demande de la force.
Il est comme nous, sauf qu'il est ma foi, il est emprisonné dans sa chaise roulante.
Face à sa maladie, Romain se voit autrement.
Tu viens me chercher, hein ?
Bah oui, je viens te chercher, bien sûr.
Adieu, ciao.
Ciao, bon après-midi.
Ouais, merci.
Moi, ma maladie, elle me passe un peu à côté parce que... Pas parce que je peux faire plein de choses hein, comme les autres.
Comme l'école, par exemple.
Alors, première chose, le petit test formatif que vous faites seul et que vous venez poser ici à l'envers comme vous avez fait. Alors, qui distribue ?
Une différence, il est assisté par un auxiliaire de vie scolaire. Le canton de Fribourg l'a mis en place depuis 2012. Ce sont des stagiaires.
Tu multiplies 2 par 4, ça donne combien ?
8.
8. 2 multiplié par 2, ça donne...
Tu peux me raconter un peu où on est là maintenant ?
On est dans ma salle de classe où il y a avec tous mes copains et la maîtresse et tout le monde.
Il y a des choses que tes copains font, toi tu les fais pas. Tu sais pourquoi?
Parce que ça me fatigue trop ou c'est trop compliqué pour moi à faire.
Il y a des choses que tu aimerais faire et que tu peux pas faire.
Écrire, j'adore écrire. Mais c'est comme ça, mais je peux pas écrire. Parce que ça me fatigue trop.
1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, c'est ça la nuit.
16h.
Non, on commence là.
Quand c'est 8h du matin, j'ai tellement fait beaucoup de choses. M'habiller, manger, tout ça, ça me prend une telle énergie que j'ai l'impression que c'est déjà 4h30 de l'après-midi.
En classe, pour lever la main, il utilise un panneau.
Il est plus simple à comprendre, il est plus humoristique et puis il est moins long aussi.
Dans la journée scolaire, on a donc l'impression que tout fonctionne. C'est d'ailleurs ce que dit Alexia, l'une des deux institutrices de la classe. Elle a derrière elle 4 ans d'expérience, dont un peu plus d'un an avec Romain.
On a toujours un auxiliaire de vie qui est présent. C'est la personne qui va s'occuper de Romain au niveau moteur, donc c'est son crayon, on va dire, c'est sa main. Et nous, ben, on fait tout le côté pédagogique, donc il ne faut aussi pas juste oublier d'aller vers Romain parce qu'il y a un adulte tout près.
Qu'est-ce que ça a changé dans la dynamique de la classe?
Les élèves qui sont en classe avec lui, ils le connaissent depuis tout petit. Donc c'est vrai que tout ce côté tolérance, il est vraiment impressionnant dans cette classe. Pour moi, c'est une richesse. C'est aussi des expériences. Avoir toujours quelqu'un dans sa classe, c'est pas non plus... C'est pas habituel, on va dire, d'avoir toujours, en tout cas, un auxiliaire de vie, après on a un enseignant spécialisé. Donc c'est vrai que c'est un plus de vivre ça une fois, en tout cas, comme ça.
Là.
C'est quoi la consigne, là?
Là, elle nous dit les exercices qu'on va faire, qu'il faut passer au stabilo.
Tu dis, moi j'adore pouvoir écrire. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que tu puisses quand même le faire?
J'ai vu un enfant qui avait aussi à peu près comme moi. Il a un stylo qui détecte quand il est fatigué. Puis il a juste à dicter le mot. Et puis il écrit tout seul le stylo.
L'ordinateur, t'en as pas là maintenant. Tu pourrais en avoir un?
J'en ai un à la maison, mais normalement c'était pour l'école. Mais c'est trop compliqué parce qu'il fait que de bugger. Genre, une fois, j'ai fait mon exercice. Après, j'allais sur le bouton enregistrer. Il y a tout qui s'est effacé. Et du coup, après, les maîtresses ont dit, Romain, il faut que tu fasses ton exercice.
Et du coup, l'ordinateur, il reste à la maison.
Oui.
Fin de matinée. La maman de Romain fait le taxi entre l'école et la maison. Une maman... épuisé. Ici, on est loin de l'image idyllique de l'école.
C'est des journées qui sont tout le temps à rallonge parce qu'il y a les thérapies, parce qu'il y a l'école, des appareils respiratoires, il y a des exercices quotidiens. Une journée avec Romain devrait durer pas 24, mais 48 heures. Personne vit à la maison pour voir réellement comment ça se passe. Et c'est ultra difficile de comprendre les choses quand on voit Romain assis dans son fauteuil avec un magnifique sourire.
C'est une coupure. Maman qui m'est coiffée ce matin.
Qui m'est coiffée.
Il y a bien un réseau qui rassemble tous les intervenants. Ils dialoguent sur la prise en charge de Romain, mais la maman a l'impression de porter l'essentiel de la charge.
Ça fait aussi partie de leur travail à l'instruction publique de mettre les choses en place en fait, pour que la scolarité d'un enfant se passe dans les meilleures conditions possibles. Actuellement, je n'ai pas ce sentiment-là. C'est vrai qu'un des aspects qui pourrait soulager Romain, c'est l'utilisation d'un ordinateur. La mise en place est très compliquée ici en Suisse. Parce que les gens ne sont pas formés pour, l'enseignante spécialisée non plus. On a testé la reconnaissance vocale, en fait, mais dans une classe, il y a tout le temps du bruit. Et puis, on le sortait plusieurs fois de la classe pour qu'il fasse justement l'apprentissage du clavier. Puis en fait, il loupait une bonne partie des leçons, quoi.
Ouais, Romain, si tu fais le singe, on va pas y arriver.
Oui, oui.
Frédéric Rodi, le responsable de l'établissement scolaire de Marsens, est très attentif à la situation de Romain. Mais pour lui, la charge qui pèse sur les épaules de la maman est inévitable.
La plus grande experte de la situation de Romain, c'est sa maman. C'est elle qui le suit depuis le début et elle aura toujours 14 trains d'avance sur les différents intervenants qui prendront en charge. C'est pas toujours évident pour elle de savoir où se positionner.
Quand tu vas à l'école, Romain, est-ce que tu as l'impression qu'on te comprend toujours les efforts que tu fais ?
Ben, pas tout le monde. La plupart, oui.
Et tes institutrices, les enseignantes ?
Cette année, elles sont cool. Ça dépend de quelle maîtresse.
Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, toi, dans la vie ?
Moi, j'aimerais bien devenir chirurgien.
Ça, ce serait ton rêve ?
Oui. Ça m'a l'air assez incroyable de voir dans le corps ce qu'il y a, comment c'est un os et tout ça.
Est-ce que ton petit corps, il est comment ?
Ben, il y a des os, des muscles qui ne fonctionnent pas chez moi. Il y a un cerveau et des yeux.
Mais ça marche vraiment bien.
Ouais.
Le parcours du combattant de Romain pour continuer à être scolarisé, c'est un reportage de Pierre Crevoisier et Francesca Argirofo diffusé le 13 janvier dernier sur la radio-télévision suisse. Pierre et Francesca, vous êtes avec nous, bonjour.
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 Est-ce que vous avez des nouvelles de Romain ? Est-ce qu'il continue à aller à l'école ?
Alors, effectivement, Romain va bien aujourd'hui, il a 10 ans. C'est toujours cette petite boule d'énergie infiniment fragile. Mais une chose importante s'est passée après le reportage, c'est que pour la première fois, les parents ont été consultés, même si c'est la dynamique de l'ensemble des intervenants qui sont tous les jours au front qui a réussi cet exploit. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la famille et Romain ont pu être consultés sur leur avenir et sur leur devenir.
Et Francesca, est-ce que, donc la maman disait qu'elle était épuisée dans le reportage, est-ce que vous la sentez soulagée du coup avec cette aide de la municipalité ?
Je crois qu'elle est soulagée, je crois qu'elle était assez contente de voir que finalement elle avait été entendue. C'est vrai qu'elle disait qu'elle devait porter énormément, mais finalement avec la diffusion de ce reportage, c'est vrai que les lignes ont un petit peu bougé, elle a été contactée par les autorités scolaires et aujourd'hui elle fait partie justement de ce réseau d'intervenants venant autour de Romain, elle a son mot à dire et elle peut intervenir.
Merci beaucoup Francesca Argirofo et Pierre Crevoisier de la Radio-Télévision Suisse. Merci à vous. Direction l'Afrique et plus précisément le sud du Sénégal, où l'excision est une pratique encore très répandue, même si elle est illégale depuis près de 20 ans. Là-bas, des jeunes filles militent activement pour que les mutilations génitales cessent. Avec des photos et des mots très crus, elles témoignent des ravages de cette pratique, très ancrée dans les traditions. C'est un reportage de Marie-France Abastado de Radio-Canada.
Bonjour chers membres du club de jeunes filles, moi c'est Fanta Baldé, père éducatrice ici au niveau du centre conseil ado de Kolda. Aujourd'hui on va débattre sur l'excision.
Comme tous les mercredis, le club des jeunes filles de Kolda se réunit.
Depuis 4 ans, c'est une activité qu'on organise chaque mercredi pour renforcer les capacités des jeunes filles, permettre qu'elles puissent développer des communications entre elles, avoir des informations pour pouvoir échanger avec leurs parents, leurs pères dans la collectivité. Parce qu'après chaque mercredi, il y a une visite à domicile. Et c'est les filles elles-mêmes qui sont chargées de le faire, pas moi.
C'est Babacar Sy qui coordonne le centre conseil ado de Kolda. Et c'est Fanta Baldé, 18 ans, qui, à l'aide de projections de photos, explique les 3 types d'excision.
Ça, c'est le sexe d'une fille qui n'a pas été excisée. Et là, c'est le type 1. Il y a l'ablation partielle ou totale du clitoris. Là, c'est le type 2. C'est l'ablation du prépuce et du clitoris avec ablation partielle ou totale des petites lèvres. Là, c'est la troisième type. Ablation partielle ou totale des clitoris, petites et grandes lèvres, avec suture, rétrécissement de l'entrée vaginale.
Dans la chaleur de cette fin de journée, il y a environ une quarantaine de jeunes filles entre 16 et 22 ans qui écoutent l'exposé de Fanta. Quand on demande à celles qui ont été excisées de lever la main, elles sont plus de la moitié à le faire. Rien d'étonnant dans cette région du sud du pays où l'excision est quasiment la norme. Pourtant, cette pratique a été interdite au Sénégal en 1999.
Ici au Sénégal, la pratique de l'excision affecte la vie de 28% des femmes. À Kolda, c'est 94%.
Toi, tu es de quelle ethnie ?
Togolais.
Et tu n'as pas été excisée. En regardant ces images-là, qu'est-ce que ça t'a fait ?
Mais ça m'a choqué. Quand on voit la chose comme ça, c'est difficile à imaginer, c'est atroce.
Maintenant, nous, en tant que jeunes filles, moi je ne suis pas une jeune fille, c'est vous les jeunes filles. Quelle est notre mission?
Commencer par sensibiliser ceux qui excisent les jeunes filles.
Et quoi encore?
Sensibiliser les parents.
Pour que ces parents arrêtent d'exciser leurs filles. Maintenant, on va aller faire une activité, comme on a l'habitude de le faire. On va aller à Metnechir.
Les jeunes filles du club de Kolda se dirigent donc vers Medina Sherif, un des quartiers périphériques de la ville. Leur discours bien maîtrisé et armé de leur grand cahier à spirale illustré de schémas de sexe féminin excisés, elles s'apprêtent à sensibiliser les mères de famille aux dangers et aux séquelles des mutilations génitales. De son côté, c'est dans les villages reculés de la brousse du Fouladou que la militante Mariama Niamadio mène son combat. Cette femme de 48 ans, mère de 6 enfants, parcourt la brousse à moto depuis plus de 25 ans pour convaincre les exciseuses et les mères de jeunes filles de ne plus avoir recours à cette pratique.
Chaque semaine, je fais de village en village faire des porte-à-porte pour préparer une grande sensibilisation de masse.
Au départ, on réunissait des communautés et ces communautés allaient dire oui, nous allons abandonner. Mais une chose qui est tellement ancrée, bien avant même l'islam, une chose culturelle, ils vont te dire oui, on va abandonner, mais au fait, il n'y a pas d'abandon.
Et pourtant, les séquelles sont majeures. Au-delà des hémorragies qui peuvent se déclencher tout de suite après l'opération, des problèmes de santé chroniques et des douleurs aiguës peuvent aussi en résulter, sans compter l'absence de plaisir sexuel pour le restant de leur jour.
Juste après l'excision, il peut y avoir mort subite s'il y a l'hémorragie. Il y a la tétanos, puisque le couteau n'est ni excérilisé, ni même lavé. Il y a des conséquences de court terme au moment de la cicatrisation qui amènent cet enflement du clitoris jusqu'à ce que ça devienne une boule dure. Même les rapports, c'est un problème et je ne parle même pas de l'accouchement.
C'est pour cette raison que Mariama s'est dit qu'il fallait donner un coup de barre dans les façons de lutter contre l'excision. Elle s'est donc tournée vers l'ONG USU, qui a instauré des programmes de dépistage volontaire. Elle propose l'exercice lors de ses visites au village.
On leur demande de nous trouver 20 filles, excisées ou non excisées, pour ne pas les apeurer, puisqu'ils pensent que si on dit uniquement des filles excisées, il y a la répression de la loi, elles ont peur d'être dénoncées. Et à partir de là, s'il y a des problèmes liés à leur sexe, le projet prend en charge. Et on sensibilise les parents en leur montrant ces séquelles qui sont dues à l'excision. Et elles réfléchissent. Et là, elles commencent à douter.
Et quand les parents doutent, les exciseuses aussi se mettent à douter. C'est ce qui est arrivé à Dado Mbalo, à qui nous sommes allés rendre visite au village de Sarim Banying.
Salam alaikum, Darvan. Salam.
L'ancienne exciseuse, une femme souriante qui a la fin soixantaine, nous fait d'abord visiter sa case où elle dort avec ses 8 petites filles.
Vous avez vu la case, elle est tellement traditionnelle.
Oui, la tradition est forte dans ce petit village du Fouladou. Et faire abandonner l'excision à cette dame qui la pratiquait depuis une trentaine d'années n'a pas été une mince affaire, dit Mariama, alors que Dado Mbalo nous montre les lieux où elle procédait aux excisions.
C'est ici qu'on mettait une natte et les filles, on les faisait coucher ici. Et il y a 4 autres vieilles mamans qui allaient s'asseoir ici pour faire le lavage de ses enfants. Elle nous a remis à l'ONG USU le couteau plus le calebasse à une déclaration d'abandon qu'elle a fait devant tout le monde. Tu sais, elle m'avait dit ça une fois, tant qu'elle est avec le couteau, il y a toujours un Satan qui va les pousser. Donc si tu dois abandonner, tu abandonnes tout.
Mais à la question de savoir si elle regrette d'avoir pratiqué l'excision pendant de si nombreuses années, voici ce que l'ancienne exciseuse répond.
Elle dit, elle ne peut pas dire qu'elle regrette, puisque c'était sa tradition. Mais quand elle a compris, elle a décidé d'abandonner.
En fait, il a fallu 5 ans à Mariama avant de convaincre Dadoum Balot d'abandonner cette pratique.
Maintenant, c'est sa petite fille qui a des séquelles de l'excision qui va avec nous pour sensibiliser là où elle a pratiqué dans d'autres villages. Et elle témoigne que l'excision est mauvaise. Il faut abandonner. Ma grand-mère a abandonné. Il ne faut pas appeler une autre exciseuse. Moi, j'ai les séquelles de l'excision. Moi, j'ai fait des enfants, mais ce n'est pas avec un plaisir. Ça, il faut oser de le dire. Donc, ce n'est pas facile, mais on doit tout faire pour abandonner l'excision.
En tout cas, la loi elle seule ne peut suffire à faire changer les choses. Bien sûr, le Sénégal a fait beaucoup de progrès en la matière, puisque depuis le début des années 2000, plus de 1500 communautés sénégalaises ont abandonné cette pratique. Mais c'est surtout sur les mentalités qu'il faut travailler. Et Mariama Niamadio n'est pas prête d'arrêter de le faire.
Moi, tant que je vis et que je peux marcher, je lutterai ce fléau jusqu'à avoir les résultats qu'il nous faut, puisque les femmes en souffrent.
L'excision, un village à la fois, c'était un reportage de Marie-France Abastado diffusé le 27 mai dernier sur Radio-Canada. Marie-France, vous êtes avec nous en duplex de Montréal, bonjour.
Bonjour.
Vous avez recueilli la parole rare d'une exciseuse, alors pourquoi a-t-elle arrêté? Est-ce que ce sont les actions de prévention qui l'ont convaincue?
C'est un mélange de plusieurs facteurs en fait. Et Mariama Niamadio a travaillé très fort pour convaincre l'ancienne exciseuse Dadoum Balot donc de mettre fin à sa pratique de l'excision. 5 ans, il lui a fallu, comme il est dit dans le reportage, et donc il a fallu qu'à répétition elle fasse valoir les conséquences très néfastes de cette opération sur la santé des jeunes filles, autant dans les semaines qui suivent l'excision qu'au moment de l'accouchement. Et Dadoum Balot a montré beaucoup de résistance. Mariama l'a même emmenée en Guinée rencontrer d'anciennes exciseuse qui avait abandonné la pratique pour qu'elle la convainque d'en faire autant. Mais ce qui a sans doute été l'argument massu pour l'exciseuse Dadoum Balot, c'est de voir sa propre petite fille avoir tant de difficultés à mettre son enfant au monde à cause de l'excision, à cause des séquelles en fait de l'excision.
Les actions de prévention sont très directes, les mots et les photos sont très crus. En fait, les femmes qui font de la prévention montrent la réalité de ce qu'elles subissent.
Oui, et je vous avoue que c'était assez frappant de voir que dans un pays où par ailleurs on est assez réservé sur toutes les questions reliées à la sexualité, les jeunes filles soient elles aussi directes dans leur discours et sans pudeur quand venait le temps de montrer et de décrire les conséquences de l'excision. Mais en fait, on se dit qu'il ne peut pas en être autrement. Si on veut mettre fin à cette pratique, il faut être en mesure de montrer et de nommer les choses. On s'est d'ailleurs nous-mêmes posé la question au cours de la réalisation de ce reportage. Qu'est-ce qu'on allait laisser de ces descriptions faites par les jeunes filles et par la militante Mariama Niamadio? Et dans la version originale, beaucoup plus longue de ce reportage, dans l'article web, on a choisi de ne rien censurer et de laisser les descriptions parfois assez graphiques.
Merci beaucoup Marie-France Abastado de Radio-Canada. Merci à vous. Pour terminer, nous allons retraverser l'Atlantique pour aller cette fois-ci en Californie à la découverte d'un phénomène nouveau et très lucratif. Les chaînes dites familiales sur YouTube, quand des parents se filment et mettent en scène leurs enfants dans leur vie quotidienne. La chaîne April Justin TV compte plus de 350 000 abonnés. Les parents se filment au jour le jour, même dans les moments les plus intimes. C'est un reportage d'Éric Desalves de Radio France Internationale.
Hi YouTube friends, thank you so much for tuning in. Today I'm going to talk about undergarments.
C'est une vidéo en apparence anodine, mais elle a fait d'April et de son mari Justin des youtubeurs professionnels. C'était en 2011, jeune institutrice de maternelle, passionnée de mode et de maquillage, April, trentenaire californienne d'origine asiatique, poste un tutoriel sur les meilleurs soutiens-gorge sans bretelles. Le succès est aussi immédiat qu'inattendu. Sa vidéo tournée au portable devient virale. Elle atteint 10 millions de vues.
So these sticky bras look like this. I remember it was prom season.
Je me souviens, j'avais fait cette vidéo sur les meilleurs soutiens-gorge à porter pour les balles de fin d'année. Je ne sais pas comment, mais cette vidéo a fait des millions de vues. Cette vidéo toute seule nous rapportait déjà plus que mon boulot d'institutrice. Je n'en revenais pas. C'est là que nous avons réalisé que c'était plus qu'un simple hobby, que c'était un vrai travail.
This is more than just a hobby, it's also a job now.
Car ces millions de vues YouTube rapportent gros, suffisamment pour qu'elle et son mari Justin quittent leur travail et achètent une maison près de San Francisco, où le mètre carré est l'un des plus chers de la planète.
Il y a deux façons principales de gagner de l'argent sur YouTube. D'abord, YouTube partage avec le YouTuber l'argent de la publicité que vous voyez juste avant de visionner une vidéo. Mais plus récemment, les sponsors sont apparus. Beaucoup de marques nous payent pour parler de leurs produits dans nos vidéos. Et maintenant, cela représente une proportion beaucoup plus importante que l'argent que nous gagnons des simples revenus issus des vues.
Sur YouTube, leur modèle économique est simple, comme une télé-réalité uberisée. April et Justin font de leur vie privée un produit. Au quotidien, leurs 360 000 abonnés ne ratent rien de leurs moments les plus intimes, comme par exemple la découverte d'un test de grossesse positif.
Ok, je viens de faire le test et... Oh, je suis tellement contente! Je crois que c'est positif! Le signe plus veut dire enceinte!
Nous sommes vraiment comme un livre ouvert, nous partageons des moments, comme nos deux accouchements. Mais ce qui est important sur notre chaîne, c'est que nous voulons être positifs. Nous avons rencontré en vrai pas mal de nos abonnés, des gens de notre âge, des adolescents, c'est un vrai mélange. Ils ont le sentiment que nous sommes des gens normaux et que nous sommes leurs amis. Beaucoup disent qu'ils ne sont pas heureux dans leur vie et qu'ils nous regardent comme une inspiration ou but de ce qu'ils pourraient être. Ils sont attirés par notre optimisme.
Salut les amis, nous sommes si heureux de vous annoncer que nous attendons un bébé.
Aujourd'hui, April et Justin mettent à contribution leurs deux enfants, des bambins qui grandissent sous les yeux des centaines de milliers d'abonnés YouTube de leurs parents.
Honnêtement, je ne considère pas que ce soit un travail pour eux. Mais je sais que je suis sponsorisée dans les vidéos parce que je suis une maman. Donc nous économisons pour leurs futures études. Ce n'est pas pour nous, c'est pour eux.
Mais April et Justin le savent, les youtubeurs vieillissent mal. Alors le couple se diversifie et vient d'ouvrir une société de conseils pour aider les nouveaux youtubeurs à maximiser leurs revenus sur Internet.
Youtubeur en famille, c'est un reportage diffusé le 21 août sur RFI, un reportage signé Eric Desalve, correspondant sur la côte ouest des États-Unis. Eric, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, ça dit beaucoup de choses de notre société, cette façon de se mettre en scène.
Ouais, exactement. Au départ, je pensais que ça allait être un reportage tout à fait léger, puisque ici, on a été beaucoup occupé par l'actualité des feux meurtriers, de la crise migratoire à la frontière mexicaine, et je pensais que ça allait être un sujet tout à fait léger. Et en fait, effectivement, ces youtubeurs californiens, je crois, effectivement, disent quelque chose des États-Unis, disent quelque chose de l'époque dans laquelle on vit. Voilà des gens qui ont décidé d'arrêter leur travail après avoir posté une vidéo qui est devenue totalement virale et qui leur a apporté très vite beaucoup d'argent et qui depuis font commerce de leur vie privée. Ils le disent eux-mêmes, nous sommes un livre ouvert, leurs enfants, eux-mêmes, toute leur intimité familiale est diffusée sur cette chaîne YouTube qui finalement sert à vendre des produits puisque c'est l'un de leurs principaux revenus, le placement de produits, donc ce sont des influenceurs. Donc effectivement, c'est très juste, ça dit quelque chose de l'époque.
Comment les enfants peuvent s'épanouir dans ce cadre-là qui est très réglementé, qui est très lucratif ?
Alors c'est toute la question et c'est évidemment ce qui vient à l'esprit immédiatement. Je leur ai posé la question de savoir si eux considéraient que leurs enfants travaillaient, si c'était une activité professionnelle, puisqu'ils ont une forte rémunération pour cette présence sur la chaîne YouTube de leurs parents. Leurs parents répondent évidemment que non, et eux répondent au contraire que cette situation est parfaitement idéale pour leurs enfants, puisque avant April était institutrice, lui était employé dans une entreprise qui vend des médicaments, donc ils avaient beaucoup moins de temps à consacrer à leurs enfants. Tandis qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils sont youtubeurs, ils expliquent que c'est une situation idéale puisqu'ils sont en permanence avec leurs enfants. Sauf qu'il y a toujours entre eux et l'enfant cet écran qui offre une fenêtre à plus de 350 000 personnes sur leur intimité. Donc pour l'instant, c'est difficile de dire quelles seront les conséquences, si tant est qu'il y en ait sur psychologique sur leurs enfants, mais on peut évidemment se poser la question.
Merci Éric De Salve, correspondant sur la côte ouest des États-Unis pour RFI. Merci à vous. C'était donc les 5 reportages en lice pour le Grand Prix des médias francophones publics. Les concurrents seront départagés par 100 auditeurs de ces 5 radios francophones. Le nom du gagnant sera dévoilé dans le journal de 19h ce soir sur France Inter. La semaine prochaine, vous retrouverez votre émission Interception. Bonne journée.